On voulait parler d'une autre actualité ce soir, cette deuxième semaine du procès de Cédric Jubilard. Il est jugé aux assises du Tarn pour le meurtre de sa femme Delphine, disparue en décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Deux témoignages ont stupéfait le public dans la salle d'audience ce jeudi. Regardez ce récit de cette journée d'audience signée Raphaël Redon et Emmanuel Abron.
Ce jeudi, dernier jour d'audience de la semaine. Les avocats de la partie civile tentent d'inverser le rapport de force. Ils convoquent des témoins à la barre. Parmi eux, la nounou des enfants, qui raconte avoir été choquée par des propos de Cédric Jubilard, un jour où elle regardait un reportage sur le meurtre d'Alexia Daval par son mari, Jonathan.
Cédric est arrivé. J'ai dit que c'est malheureux pour cette dame. Et il m'a dit, oh, il est pas malin, lui. Il se fait pleurer. J'aurais fait mieux que ça, moi. Ça m'a estomaqué. 6 mois après, sa femme disparaît. Ça fait drôle.
La présidente s'attarde également sur la déposition d'un ami de Cédric Jubilard, absent au procès. Là encore, une confidence troublante.
Il m'a dit « ça se passe pas bien, j'ai envie de la tuer ». Cédric était très énervé contre Delphine. Il pensait finir sa vie avec elle.
À chaque fois, Cédric Jubilard reconnaît ses paroles, mais assure les prononcer avec ironie. Alors quel degré de crédibilité y accorder pour la Cour ?
La question qui se pose à partir du moment où la situation est admise à demi-mot par Cédric Jubilard, c'est de savoir s'il a pu, en amont de la disparition tragique survenue le 15 décembre, fomenter, imaginer la possibilité effectivement de se débarrasser physiquement de son épouse.
Pour que les 6 jurés puissent se faire leur propre opinion sur la personnalité de l'accusé, la présidente propose un élément matériel, un enregistrement, réalisé à l'insu de Cédric Jubilard par 2 membres de la famille de Delphine. La conversation se déroule dans la maison du couple, 33 heures après la disparition de la jeune femme. Cédric décrit un mariage en péril.
Quand est-ce que vous avez parlé de divorce la première fois ?
Cet été.
Moi, c'était donné un mois et demi.
Ouais.
Pour sauver le couple, si tu veux. Elle me dit non, mais ça sert à rien. De toute façon, ma décision est prise. Ouais. Je suis déjà très loin dans ma tête. J'ai toujours été sur le second plan, toujours.
Parfois, durant les 20 minutes de conversation, Cédric Jubilard parle de sa femme au passé, avec un certain détachement. Le cousin et le frère de Delphine vont alors le questionner sur la nuit de la disparition, comme pour tenter de le perturber.
Qu'est-ce qu'elle avait comme chaussure ?
Des espèces de boots. Des trucs chauds.
100 km.
Non, mais c'est des trucs très chauds.
Ouais.
C'est des trucs chauds l'hiver, quoi.
Et un jean, il y a sa doudoune blanche d'hiver.
Et le pyjama dessous.
Pyjama.
C'est ce que je suppose.
D'abord, certain de la tenue de sa femme ce soir-là, Cédric Jubilard se reprend ensuite. Comment peut-il savoir, alors même qu'il affirme s'être couché avant elle ? Pour la défense de l'accusé, cet enregistrement ne trahit en rien leur client.
Chacun l'interprète comme on veut, cet audio. Nous considérons que c'est Cédric Jubilard. Donc vous avez des personnes qui viennent, qui veulent en savoir plus, qui ont déjà une certaine conviction, qui posent des questions, il y répond, et à la fin, il s'effondre dans les bras de ces deux personnes.
Alors que la première moitié de ce procès s'achève, les parties civiles ont tenté à leur tour de mettre à mal la défense de Cédric Jubilard. La semaine prochaine, l'amant de Delphine s'exprimera à la barre, l'un des témoignages les plus attendus de ce procès hors norme.
En plateau pour en parler, Dominique Rizet. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Julie.
Police justice, Jacques Fonbonne, général de gendarmerie. Bonsoir Jacques Fonbonne. Bonsoir, et Julie. Carole Maslia, vous êtes avocate pénaliste et de l'association La Voix de l'Enfance. J'aimerais qu'on commence avec vous, Dominique Rizet, sur ces témoignages, quand même des témoignages qui ont marqué cette nouvelle journée d'audience. Cette nounou, donc, qui raconte qu'un soir, elle évoque avec Cédric Jubilard, ou plutôt lui, il lui parle directement de l'affaire Jonathan Daval et se compare à lui.
Ouais, elle regarde la télévision, elle regarde un documentaire sur Jonathan Daval, donc, qui a été condamné à 25 ans pour le meurtre de sa femme Alexia Daval, 3 mois d'enquête, et qui a beaucoup pleuré lui-même en demandant à ce qu'on lui rende sa femme. On se souvient tous de l'histoire de Jonathan Daval, voilà, la marche blanche, les larmes, tu étais mon énergie, tu étais... Bon, voilà. Et donc, lui passe derrière la télévision, enfin, il voit ce documentaire, et il dit donc à la nounou, il s'est mal pris parce que moi, je me serais pas fait prendre. Alors, c'est un message subliminal.
Qu'est-ce moi, que ça veut dire? On, ça, peut... on ne l'aurait jamais retrouvé.
On l'aurait jamais retrouvé. Voilà, j'aurais fait mieux que ça, on l'aurait jamais retrouvé. Quand on connaît aujourd'hui le contexte de la disparition de Delphine Jubilard, qui a disparu et qu'on l'a toujours pas retrouvé, c'est vrai que cette phrase, elle sonne et même elle résonne à l'infini entre les murs de la cour d'assises et dans la tête de tous ceux qui sont ici, commencer par celle des jurés. Mais encore une fois, c'est du Jubilard dans le texte, c'est du Jubilard dans la vie, c'est du Jubilard chaque jour, avec tout ce qu'on est habitué maintenant à entendre de ce qu'il a été capable de dire. On va pas revenir sur les détails, même sur sa vulgarité quand sa femme disparaît, sur les phrases qu'il va prononcer, les expressions qu'il va avoir. On les a dites ici dans l'affaire suivante, on va pas les répéter. Mais voilà, quoi, c'est du Jubilard. Alors, est-ce que le personnage est capable...
Il était vulgaire, pardon, avec elle? Il était...
Il était vulgaire. Écoutez, quand il a le au petit matin, il a Anne au téléphone, qui est la meilleure amie de sa femme. Il lui dit, est-ce que t'as vu Delphine? Je la cherche partout. C'est vrai qu'il appelle Anne. Il parle un peu du contexte de la séparation. Mais comment ça va entre vous? Elle lui pose des questions et il dit, la semaine dernière, on a encore couché ensemble. Et il lui dit ça. Il lui donne ce détail. Et il lui dit, elle m'a astiqué le poireau. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est Jubilard. Mm. C'est indécent de dire un truc pareil. C'est indécent de le dire alors que sa femme vient de disparaître. On est vraiment dans les heures où, voilà. Donc, est-ce que cet homme parle toujours comme ça? Est-ce qu'il est toujours de cette vulgarité-là? Est-ce qu'il est toujours aussi inconséquent, aussi stupide, aussi provocateur, aussi vantard? C'est Jubilard. Et c'est cet homme-là qu'on juge. Et c'est ça qui est important.
C'est Jubilard, mais Jacques Fonbonne, est-ce que derrière, il peut y avoir autre chose, une sorte d'aveu, parce que c'est ça dont il est question. La nourrice qui dit d'ailleurs à la barre qu'elle était choquée, il me dit ça, et 6 mois après, sa femme disparaît, ça fait drôle.
Alors, il y a deux éléments à prendre en compte. D'abord, c'est le contexte, c'est le ton. Le même texte dit d'une façon sérieuse ou dit sur le ton de la plaisanterie a évidemment pas le même sens. Mmh. Et puis, comme le soulignait Dominique Riz à l'instant, il y a la personnalité de ce garçon qui, pour autant, n'en fait pas un coupable. Mais on a l'impression qu'il joue contre lui-même. C'est-à-dire que tous ces éléments qui s'ajoutent, qui sont de petits éléments, qui ont un poids finalement extrêmement faible lorsqu'on les prend séparément, dessinent un personnage qui donne sans doute l'impression au juré de rentrer dans la culpabilité à cause de ce qu'il dit de lui-même ou à cause de ce qu'il fait qu'on ne lui demande pas. Comme un joueur de poker, en quelque sorte, qui fait chauffer la machine jusqu'au moment où il va y avoir une rupture et qui peut-être, s'il en a l'intelligence, s'arrêtera avant que des éléments deviennent trop lourds pour ne pas faire pencher la balance dans le sens de la culpabilité.
Carole Maslia, c'est toute la particularité quand même de ce procès, pas de corps, pas d'aveu. Ces témoignages-là, ils ont un poids essentiel pour ces jurés. Et en l'occurrence, ils sont plutôt à charge contre Cédric Jubilard.
Je crois qu'il faut déjà se dire que ce procès va durer plusieurs semaines, qu'il a été très médiatisé, qu'on a des jurés, on a 6 jurés qui vont statuer en leur âme et conscience en fonction d'un certain nombre d'éléments, des éléments probants, mais aussi des éléments subjectifs. Et c'est toute la particularité d'un procès d'assises. Le procès d'assises, il va être basé sur une intime conviction. L'intime conviction, c'est pas l'intime intuition. Ça ne peut pas être il est désagréable, il est vulgaire, finalement on dirait que, on a l'impression que...
Ça va plus loin que ça.
Ça va même beaucoup plus loin. Vraiment, au moment de la délibération, c'est comme une forme de recueillement où on va évidemment examiner les éléments à charge, à décharge, mais on va aussi s'interroger de manière certaine. Est-ce qu'il y a une évidence à se prononcer sur la culpabilité d'un homme? fut-il aussi antipathique, aussi vulgaire, même si nous avons des soupçons. Et en même temps, c'est toute la difficulté et c'est tout l'art de la cour d'assises. Mais je crois que très honnêtement, il ne faut pas se leurrer. Dans ce dossier, quelle que soit la décision, il y aura un appel. Il y aura s'il y a un acquittement, il y aura un appel du parquet. S'il y a une condamnation, il y aura évidemment un appel de la défense. Aujourd'hui, on voit que les avocats de la défense, et c'est leur rôle, vont se battre pied à pied, becs et ongles, pour obtenir ce trophée qui est l'acquittement. Et on a le parquet, on a l'avocat général, et on a des parties civiles qui, elles, si vous voulez, expriment de manière subjective leur ressenti. Il a été comme ci, il a été comme ça, c'est désagréable, c'est pas normal. Il a dit que peut-être il avait envie de la tuer. Oui, mais bon, et so what? Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut être très prudent. Il est toujours présumé innocent. Tout peut arriver. Moi, je ne crois pas dans ce type de dossier à l'aveu de dernière minute.
Vous ne croyez pas
besoin
qu'il y aura un aveu
rédemption.
Le prochain jour.
On l'a déjà eu, mais pas là.
Dominique Rizet.
Oui, moi j'ai l'impression qu'on assiste à un combat de boxe où il n'y aura pas de chaos. Le chaos, ce serait Cédric Jubilard qui se lève et qui dit « oui, c'est moi ». Ou le chaos, ça pourrait être un avocat qui va lui sortir quelque chose, un argument, où il va s'effondrer. Parce que ça sera intenable pour lui et il sera obligé d'avouer. Le chaos, ça peut être son fils, lui, bon, qui viendra pas, mais quelqu'un qui viendrait, quelqu'un ou sa mère, Nadine, qui lui dirait mais parle-nous, dis-nous quelque chose, et que là il s'effondre, ce sera un chaos. J'ai l'impression que ça n'arrivera pas, malheureusement, si tant est qu'il soit le coupable de la disparition et du meurtre de sa femme. J'ai l'impression qu'on va aller jusqu'au bout du combat en 12 rounds et que au bout du combat, on va compter les points. Et ceux qui vont compter les points sont les trois magistrats, président, assesseur de la cour d'assises, ouais, et les six jurés qui vont dire, bah voilà, pour nous, il y a eu plus de coups de l'accusation, il y a eu plus de coups de la défense, et on va, en fonction de ça, prendre une décision. Et ça va être terrible. Ça va être terrible pour ces neuf personnes de se décider, sachant que de toute façon, et Carl l'a très bien dit, à l'issue, s'il est acquitté, il y a un appel, s'il est condamné, un appel du parquet, et s'il lui est condamné, il y a un appel de ses avocats, donc de lui.
D'où l'importance de ces témoignages, autre témoignage évoqué dans le reportage qu'on vient de voir, ce moment où Cédric Jubilard range du bois et qu'il est aidé par un ami.
Par son copain Sofiane, c'est un week-end.
Allez-y, vous racontez mieux que moi, Dominique.
Non, pardon, parce que je veux pas qu'apparaît la parole tout le temps.
Si, vous êtes là pour ça.
Non, je le fais avec 15 secondes. Il est avec un copain, Sofiane, qui est venu l'aider à ranger du bois. Il lui parle et il lui dit, elle m'énerve, je vais la tuer. Et je vais l'enterrer. Ça, c'est ce que dit Sofiane aux enquêteurs. Il n'est pas venu témoigner, Sofiane, aujourd'hui. Mais son témoignage, qui a été recueilli par les enquêteurs dans le cadre de l'instruction judiciaire, a été évoqué.
A été lu par la présidente.
Et lui, Cédric Jubilard, dans son box, dit, ouais, c'est vrai. J'ai dit ce jour-là que j'avais envie de la tuer. Mais j'ai pas dit que j'allais l'enterrer. J'ai pas dit ça. Donc, vous voyez, il y vient un peu, et pas vraiment, il en donne un bout, il dit quelque chose, oui, c'est vrai, j'ai dit ça.
Le fait d'avoir dit que j'allais tuer Delphine, oui, je le reconnais. Alors, je sais pas si on peut remettre cette phrase qui vient de disparaître.
On l'a dit.
Mais ce n'est pas pour autant que je l'ai fait. Peut-être qu'on peut écouter les avocats, justement, de Cédric Jubilard là-dessus.
Voilà un homme dont on voudrait maintenant, pour les besoins de l'accusation, croire qu'à de multiples reprises, il va d'abord annoncer son crime. Et puis qu'une fois l'ayant commis, il va aller l'avouer à tout le monde. Enfin, moi, à un moment donné, qui peut le croire autrement que par le prisme de ce que Cédric Jubilard raconte? C'est-à-dire, dès le début, je sais que je suis le suspect numéro un, et c'est vrai. Pendant des semaines et des mois, à chaque fois que je vais croiser des gens, je vais sentir le regard accusateur. Et donc, auprès des gens que j'aime, auprès des proches, eh bien, je vais ironiser en me disant « Ah, tu sais bien que c'est moi qui l'ai tué, bien sûr. » Et c'est drôle, c'est pas drôle, c'est pas adapté, peu importe. Mais enfin, à quel moment on peut valablement considérer que cet homme fait des aveux ou aurait pu prévenir à l'avance de tout le monde son crime? Ça ne tient pas la route.
Les avocats qui jouent vraiment sur cette personnalité de Cédric Jubilard, il est comme ça, il aime ironiser.
Oui, mais c'est pas... Maître Franck le défend très bien. Où, effectivement, il se conduit de la façon la plus stupide possible en donnant du grain à moudre à l'accusation, ou c'est un jeu. Moi, je persiste à penser que c'est un jeu. C'est un jeu pour se mettre en valeur. Les experts, psychiatres disent que c'est une personnalité très égocentrée, très dominante. Il mène en quelque sorte le jeu parce que tout le monde s'interroge sur la question de savoir si effectivement il dit la vérité ou s'il les balade, si c'est un jeu de chat et de souris, parce que c'est ce que l'on est en train de dire, ça se joue sur la tonalité, sur le moment où on le dit, sur le fait que, bah oui, c'est moi qui l'ai, j'ai dit que je l'avais tué, mais c'est pas une infraction, il y a pas d'élément matériel, il y a pas d'élément intentionnel, c'est comme quand on s'embrouille dans un bistrot, sort, je vais te tuer, il se passe rien, il y a pas d'infraction pénale, il peut y avoir des menaces, mais là c'est pas le cas, Je dirais, il maintient la tension et comme vous le disiez, dans un dossier où effectivement, je dirais que la pièce de monnaie est à la verticale, elle peut tomber du côté de l'acquittement ou de la culpabilité. Bien malin celui qui peut prétendre comment ça va se faire. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous disiez, c'est que c'est le raisonnement de l'intime conviction, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont la tentation est de le faire de façon récursive, c'est-à-dire j'ai le sentiment qu'il est coupable, et pour nourrir cette culpabilité, je vais aller chercher dans le dossier et dans ce que j'ai entendu, les éléments qui m'ont impressionné dans ce sens-là et qui, en les mettant l'un à côté de l'autre, deviennent logiques. L'intime conviction, c'est autre chose. C'est justement l'inverse. C'est à partir des éléments objectifs, de ceux, comme dit l'article 353, qui ont impressionné ma façon de voir le procès, à partir de ces éléments, quelle est ma conclusion ? Et ça n'est pas la conclusion qui, a priori, doit être un a priori qui va s'appuyer sur quelque chose.
Alors, j'aimerais qu'on écoute des extraits, justement, qui ont été diffusés pendant le procès. Donc, c'est Cédric Jubilard, 33 heures seulement après la disparition de sa femme. Il est enregistré à son insu par un cousin. Et écoutez ce qu'il lui raconte.
4h-10, 4h-15, c'est la petite qui m'a réveillé.
Tu comme ça. Puis là, tu vois, t'avais personne dans le lit.
Personne dans le lit. Ouais, je me suis dit, elle s'endormit sur le canapé, tu vois. Ouais. Personne. Bon, elle est au WC. Puis là, j'ai commencé un peu à l'appeler. Je fais, t'es là, t'es par là. Rien.
Je suis descendu
au sous-sol. Je suis descendu, j'ai fait le tour. Ouais. J'ai cherché ce matin. Mais je cherche une aiguille dans une boîte de foin.
Ça, je connais, là, tu le sais. Ouais. Si tu veux te parler, tu parles. Courage, hein. Tu sais qu'on est là.
Oui, je sais que vous êtes là.
Qu'est-ce qu'elle avait comme chaussures ?
Des espèces de boots, là. Ça. C'est des trucs très chauds.
Ouais.
C'est des trucs chauds l'hiver, quoi.
Et un jean, il y a sa doudoune blanche, là, d'hiver.
Quoi. Et le pyjama dessous. Enfin, ouais. C'est ce que je suppose. Ouais.
Alors, là-dessus, y a quelque chose qui colle pas, visiblement, puisqu'il aurait dit qu'il était déjà couché au moment de sa disparition. Et il raconte à son cousin qu'il se souvient précisément des chaussures qu'elle portait au moment où elle a quitté la maison.
Il faut dire qu'au moment où il va se coucher, il raconte que sa femme est en train de regarder un film, une émission sur M6, je crois. Et la France a un incroyable talent, il me semble que c'est ça. Elle est avec son fils Louis dans le canapé et lui monte se coucher. Mais je crois qu'il dit qu'elle est en pyjama. Et ça, de toute façon, les avocats vont y revenir. Et vous avez vu qu'à la fin de sa phrase, il rajoute, je suppose. Donc, elle est en pyjama avec lui dans son canapé. On sait qu'elle envoie des messages à son amant jusqu'à 22h55. Et ensuite, lui dort. Et quand il se relève, bon, il n'y a plus la doudoune blanche. Et donc, il dit, voilà, la doudoune, je suppose qu'elle était en pyjama. Le problème, c'est que le téléphone a disparu. Mais on va retrouver dans la maison quand même, si c'est quelqu'un qui est parti volontairement, le sac à main de Delphine. Son portefeuille, sa carte bleue, ses papiers d'identité, son permis de conduire, ses clés de voiture. D'ailleurs que les gendarmes lui demanderont le matin en disant « mais la voiture, les clés, donc il va les chercher, il va les trouver ». D'ailleurs, il va les trouver assez rapidement. Donc, c'est vrai que ça, c'est troublant. C'est troublant et ça va constituer ce que le général Fonbonne appelle le millefeuille. Donc ça, plus le reste, tous les éléments, on ne va pas les réévoquer, ça va prendre trop de temps. C'est ça fait se poser cette question terrible, c'est qui d'autre que lui
aurait pu le faire.
Qui d'autre que lui aurait pu faire ça à Cagnac-les-Mines en pleine nuit du 15 au 16 décembre, en plein couvre-feu du confinement Covid.
Et
quand on sait que ce ne sont pas les deux autres personnes, l'amant de Delphine et la femme de l'amant.
On va y revenir d'ailleurs à la femme de l'amant, puisqu'elle a témoigné aujourd'hui, elle faisait partie des témoins. Mais un autre extrait, quand même, qui va un peu dans votre sens. Il évoque toujours auprès de ce cousin, alors qu'il est toujours enregistré à son insu, quelques heures après la disparition de sa femme, les problèmes de couple qu'il a avec elle. On l'écoute.
Est-ce que vous avez parlé de divorce la première fois ?
Entre nous, cet été.
D'accord.
On s'était donné un mois et demi,
ouais.
Pour sauver le couple, si tu veux. Elle me dit « Non, non, mais ça sert à rien. De toute façon, ma décision est prise. Je suis déjà très loin dans ma tête. » J'ai dit « J'ai fait de toute façon, c'est le mec que t'as rencontré sur Internet et tout. Il n'y a pas de... » Je fais « Dis-moi-le, je m'en fous, tu vois. »
Elle avait rencontré quelqu'un.
J'ai des doutes, si tu veux, mais j'ai aucune preuve réelle de ça, si tu veux.
On avait l'impression, alors je sais que vous dites qu'il faut rester prudent, mais jusque-là, on avait l'impression que la défense avait quand même la main rentrée, arrivait à défendre Cédric Jubilard contre tout ce qui était mis sur la table lors des audiences, mais qu'aujourd'hui, il se retrouvait un petit peu en difficulté quand même. Il y a ces enregistrements, il y a ces témoignages qui sont à nouveau à charge.
Il est renvoyé devant la cour d'assises, justement, parce qu'il y a des témoignages, parce qu'il y a des éléments de preuve, parce qu'il y a des choses, il y a quand même des éléments probants. Mais si vous voulez, quel est l'élément, y a-t-il dans ce dossier un élément déterminant, qui va véritablement être révélateur en disant voilà, là c'est sûr, c'est acquis, dont acte, c'est terminé, c'est bouclé. Non! Qu'on menace quelqu'un de dire ah, j'ai envie de la tuer, bon ben il a envie de la tuer, qui se soit trompé, qui dit voilà j'ai commis une erreur sur les bottes, tout peut se justifier. Et donc si vous voulez, c'est pas sa crédibilité, et surtout ne pas partir à mon sens du postulat en disant attendez si c'est pas lui qui c'est, non c'est pas comme ça, c'est lui ou pas, c'est pas ça, ça ne peut pas être un choix
en creux.
Voilà. C'est vraiment, il faut que ce soit une, je sais pas dans quelle mesure ça va être une évidence pour les jurés. Bon, ils doivent statuer à la majorité, ils doivent être sept. Mais je crois vraiment qu'on doit se dire, voilà, on va étudier tous les éléments de manière objective. Après, il y a la balance. Là, c'est pas bénéfice-risque, mais c'est culpabilité-innocence. S'il y a un doute, il doit de toutes les manières profiter à l'accusé. S'il y a le moindre doute, il doit profiter à l'accusé. Mmh. C'est le principe, c'est la clé de voûte de l'édifice pénal. Mmh. Ça, c'est certain. Maintenant, on peut pas envoyer quelqu'un en prison en se disant, parce que de toutes les manières, moi, j'ai beau réfléchir, je vois pas, on lui connaissait pas d'ennemis, elle était charmante, elle était sympa, en plus, ils s'entendaient pas, ils étaient sur le point de divorcer, elle avait un amant. Mais ça, on le trouve dans des milliers et des milliers de dossiers. Donc, si vous voulez, quel va être l'élément déclencheur qui va véritablement bouleverser l'économie de ce dossier. Aujourd'hui, moi, je le vois pas. La défense, elle est en difficulté. Je ne sais pas. Et vous savez, une défense qui est en difficulté, par principe, elle rebondit pour effacer les difficultés. Donc, je crois que c'est pas terminé.
Et pardon, maître, c'est vrai qu'à la fin, ce sont les avocats qui auront la parole avec leur talent d'avocat. Et on parlait tout à l'heure avec le général Fonbonne dans le couloir avec Hugues Vigier, l'avocat qui était là tout à l'heure, hein, qui était ici, qui est un pénaliste qui ne fait que des assises. Il a obtenu 126 acquittements, Hugues Vigier. C'est un monument de, hein, c'est un, voilà. Éric Dupond-Moretti en avait obtenu 145. Donc, autant vous dire, bon, Carole Mastia, vous en avez eu aussi, ça veut dire que, quand même, l'acquittement, c'est pas quelque chose de rare. Pas du tout.
Donc, il pourrait y avoir un acquittement également dans le dossier.
Donc, ça peut arriver. Mais après, on va revenir à la case départ, nouveau procès. On en discutait aussi. C'est vrai qu'il faudra batailler dur pour le faire acquitter, Cédric Jubilard.
Dernière question. La semaine prochaine, un témoignage qui sera particulièrement intéressant. L'amant de Delphine Jubilard, qui sera donc auditionné, c'est bien ça ?
Oui, et puis qui va donner... à mon avis, un éclairage sur le côté conflictuel ou sur le côté rupture entre adultes consentants qui font le constat de l'échec de leurs unions respectives. Et ça va effectivement ajouter, parce que c'est toujours le cas dans ces dossiers où l'émotion prend la plus grande part, un côté humain, je dirais, avec une couche supplémentaire, une couche d'ambiance. Et c'est vrai que dans ce dossier, il y a surtout des éléments d'ambiance, à des à défaut de preuves irréfragables.
Merci à tous les trois. Le procès qui se poursuit donc. Vous aviez un dernier mot, Dominique Buzet?
Général Fombonne aime bien le mot irréfragable.
Vous l'avez noté.
Ah, oui,
il l'a prononcé trois fois ce soir.
Et moi, j'aime beaucoup Dominique Rizet.
Voilà, magnifique. On termine là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois.